Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc à cette fin du temps de l'Avent, dans cette nuit de Noël tant attendue, et plus particulièrement dans le temps qui est le nôtre, que l'on ne peut pas oublier tout à fait. Et cependant, nous demanderons des grâces d'oubli pour pouvoir vivre pleinement cette nuit de Noël. Mais dans un premier temps, il est bien évident que nous ne pouvons pas oublier les circonstances même de la naissance du Christ et les circonstances de notre temps présent, avant de demander des grâces de joie, des grâces d'insouciance presque, des grâces d'oubli. D'oubli de ce qui est pénible, d'oubli de ce qui nous contrarie, d'oubli du mal, d'oubli même du péché, pardonné, remis, sans rancune, avec cette liberté et cette force que donne cet enfant, ce Dieu, ce roi pacifique, ce père du siècle futur. Mais nous devons scruter dans un premier temps le passé et notre présent. Tout d'abord, dans le passé, il faut bien comprendre que ce Dieu vient après des siècles d'attente, après une histoire sainte extrêmement troublée, après toute une série de générations d'hommes saints, de femmes saintes, d'hommes corrompus, lâches, mauvais, malicieux, et de femmes aussi. Mais bien souvent, nous voyons cette violence humaine à travers cette histoire sainte et ces différentes guerres. Et lorsqu'on contemple cette royauté juive depuis David, si l'on laisse de côté le premier roi réprouvé, Saül, eh bien, si Salomon est le roi de paix, ses successeurs avec Roboam, dont nous avons entendu les noms dans la généalogie qui a été donnée durant les matines, eh bien, nous voyons beaucoup de violence, beaucoup de temps perdu, beaucoup de haine, beaucoup de richesses inutiles, beaucoup de fausses vies sociales, d'impôts qui nous ont été imposés par Roboam, le fils de Salomon, au point de diviser son royaume. Et voilà que cet enfant va naître alors que leur pays est sous occupation et que parmi les Juifs, il se lève des hommes, les Zélotes, qui ne penseront qu'à la libération de leur pays et de leurs frontières, mais en oubliant assez facilement la libération de leur âme et les promesses spirituelles de ce roi, de ce Messie. Promesse qui pourtant s'était unie à une présence divine toute particulière. Lorsqu'on relit les psaumes tels qu'ils ont été éclairés par Jésus lui-même, quand on relit Isaïe, nous voyons bien que ce Messie devait être plus qu'un homme. Il devait être aussi un homme, mais il devait être l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et il va naître, lui qui est de sang royal selon la terre et qui est de sang royal divin selon la filiation du Père, lui qui sort de la demeure royale, lui qui est le Verbe éternel du Père, cette parole unique prononcée et qui est créatrice dans l'Esprit Saint. Voici donc ce Tout-Puissant qui va choisir la nouvelle Ève, la Vierge Marie, qui connaît en tant que juive, fille de Sion, toutes les prophéties. Elle les a méditées dans son cœur depuis qu'elle a été consacrée au temple de Jérusalem. Elle sait bien que le Messie sera triomphant, elle sait bien aussi que le Messie sera souffrant et qu'il va porter les péchés de son peuple. Et voilà que cette femme, mariée à Joseph, celui qui est le dernier patriarche, voilà que cette femme entend la prédication du dernier prophète, Jean le Baptiste, le fils de sa cousine Élisabeth. Voilà qu'elle va enfanter celui qui a été promis par l'ange, demandé par l'archange Gabriel, dans une supplication de tous les anges. Car les anges, après leur indignation devant le péché de l'homme, suivent la volonté du Père et on finisse par avoir pitié de nous. Tous ces anges qui sont nos anges gardiens, à chaque conception, qui nous accompagnent toute notre vie, sont finalement impatients qu'un grand nombre d'êtres humains sauvent leur âme, choisissent d'aimer. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà ce message des anges inquiets de voir l'honneur de leur Dieu bafoué par Lucifer, qui a fait tomber la première Ève et le premier Adam. Et voilà qu'ils sont inquiets de cette nouvelle Ève, l'Immaculée Conception, la toute belle, celle qui va recevoir la prophétie du vieillard Siméon lorsqu'elle portera cet enfant au temple. Un glaive transpercera ton cœur. Les pensées de beaucoup seront révélées. Et voici que le présent s'annonce, et non plus le passé, de cette naissance dans la pauvreté, dans une mangeoire et dans une étable. Voilà que nous sommes en 2019, et que ces hommes et ces femmes de toutes ces générations ont été évangélisés. Ils ont reçu cette bonne nouvelle. Ils ont su qui était le Sauveur. Ils ont su qui était la Vierge Marie. Ils ont su qui était Joseph. Ils ont connu l'existence des anges. Et pendant des générations, ces hommes, ces femmes, ces enfants ont été baptisés. Et ils ont diffusé leur foi. Ils ont envoyé des hommes et des femmes missionnaires, baptisés, catéchisés jusqu'aux confins du monde. Alors même que cet Occident qui avait reçu la foi de l'Orient, de ces peuples arméniens, de ces peuples de Terre Sainte, de ces peuples d'Éthiopie, de ces peuples de Syrie, qui maintenant sont persécutés. À Bethléem même, voilà 2019, voilà que cette foi en cet enfant, ce roi des rois, ce Messie, ce Seigneur, est bouleversé par un Occident qui est dans l'indifférence, dans les plaisirs et dans le loisir. Et combien de baptisés ne sanctifient plus le dimanche, le jour du Seigneur, ce jour de la résurrection de cet enfant Dieu qui va grandir et qui va sur la croix donner sa vie, avec au pied de cette croix cette nouvelle Ève dont le cœur immaculé sera transpercé par le glaive annoncé par Siméon. Cette nouvelle Ève au pied de la croix qui va être associée à ce salut, à cette rédemption. Derrière le chef, la tête du corps qu'est l'Église, de toutes ces âmes qui sont appelées Ecclésia, appelées à croire, appelées à espérer, à aimer Dieu. Oui, elle est présente et comme le dit saint Bernard, elle est le cou de l'Église, elle est cette partie du corps par laquelle l'influx de la tête va à tout le corps. Elle est co-rédemptrice. Elle est associée, cette femme, cette nouvelle Ève, cette mère, à ce salut pour donner à ce Dieu sa nature humaine. Alors même que dans notre présent d'apostasie, notre présent de fausse philosophie et de théologie fragile, nous pouvons même, avant qu'il s'abîme, mais nous devons prier pour lui, un Jean-Paul Sartre qui écrivait pour un de ses amis pendant la Seconde Guerre mondiale, un ami religieux, voici que lait d'une mère est venu le sang d'un dieu. Comment cet homme, qui finalement sera dans le scepticisme, a-t-il pu écrire cette phrase ? Sinon parce qu'il a été dans cet Occident chrétien, de siècles de prières, de ceux qui cherchaient Dieu, comme l'a dit Benoît XVI au Collège des Bernardins à Paris. Querere Deum, chercher Dieu. Et bien maintenant, c'est notre futur. C'est notre futur que nous devons méditer dans cette nuit de Noël. Et un futur où nous ne devons pas anticiper les épreuves, anticiper nos futurs péchés. Vous avez des confesseurs ce soir. Si ça fait longtemps que vous vous êtes confessé, eh bien, cédez. Cédez à la grâce. Ne soyez pas humilié, mais soyez humble. Et dites à un serviteur de Dieu, à ceux qui jalousement veulent conserver leur célibat ecclésiastique pour ressembler à cet époux de la nature humaine, à ce roi, à ce Dieu, à cet homme qui s'est marié pour toujours avec nous, l'agneau de Dieu, l'époux que saint Jean-Baptiste désignait, lui qui se disait l'ami de l'époux. Et quand il entend la voix de l'époux, il se réjouit. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Voilà donc cet enfant, voilà donc cette faiblesse de Dieu, voilà donc cette preuve de l'amour du Père, une preuve extraordinaire, une preuve à la face de tous ceux qui se moquent de la religion. Et depuis des siècles et jusqu'à présent, oui, il est vrai que cette vie est difficile et que ce Dieu est exigeant et que lorsque nous avons voulu nous couper de lui et devenir des dieux et choisir nous-mêmes le bien et le mal dans un orgueil fou, nous nous sommes condamnés à mort. Mais en fait, nous avons condamné cet enfant à mort. Par le péché, nous avons pris cet innocent, ce Dieu fait homme, et nous l'avons voué à payer pour nous, à racheter pour nous l'acte de condamnation de cette humanité qui, en s'éloignant de la vie et de l'arbre de vie, se porte vers la mort. Oui, les innocents qui meurent, les enfants, les bébés, que nous recommandons à la miséricorde de Dieu lorsqu'ils n'ont pas été baptisés, tout ce genre humain, toute cette fatigue, et dans un ministère varié, avant ce jour béni, ce jour d'enfance, où nous terminerons par demander des grâces d'oubli, voilà qu'un prêtre est appelé au chevet d'un homme de 97 ans qui se meurt, qui, étant en soins palliatifs, a été pris par sa famille pour qu'il puisse mourir paisiblement chez lui. Il faut pouvoir le faire. Et il était là, cet homme, à 97 ans, avec à ses côtés, dans un autre lit médicalisé, dans la même pièce, dans cette même chambre, son épouse de 89 ans, qui reçoit l'onction avec elle, qui reçoit l'absolution avec elle, qui reçoit le Saint-Sacrement avec elle. Cet enfant Jésus, ce Jésus, cet homme, ce crucifié, ce ressuscité, que nous recevons à chaque communion, où il faut bien nous préparer, où il faut être recueilli. Nous n'avons pas à communier à toutes les messes auxquelles nous assistons si nous ne sommes pas assez recueillis. Il nous faut bien comprendre que nous approchons de ce Dieu si bon, si miséricordieux, qui nous pardonne nos péchés, mais nous devons quand même avoir une conscience pure et limpide et claire lorsque nous nous approchons de lui. Car il est cet enfant, il était cet enfant qui vient entre les mains du prêtre à chaque consécration. Il est ce jeune homme qui est désigné par Jean-Baptiste. Il est cet homme qui se dit fils de Dieu, uni à son Père, ne faisant qu'un avec son Père, ayant existé avant Abraham. Oui, il est ce Dieu qui se fait tout petit dans la Sainte Hostie. Alors ce soir, nous devons tout oublier. Nous devons oublier nos soucis, nous devons oublier le fait que nous avons eu du mal à venir pendant ces semaines. Nous devons oublier nos soucis d'argent. Vous avez vu un curé se soucier de distribuer des paniers avant la messe de minuit. Comme c'est lamentable. Oui, nous sommes contraints de ces nécessités matérielles. Et pourtant, nous voyons bien cette société contemporaine avoir peur de manquer d'argent, avoir peur, et nous-mêmes, nous sommes peut-être dans l'inquiétude. Nous avons, depuis ces jours, si nous sommes parisiens, partagé cette gêne. Mais alors, faut-il toujours se soucier ? Sommes-nous malades ? Avons-nous un être cher qui est malade ? Et pour vous achever, encore ce prêtre qui va au chevet d'une femme de 60 ans. Après avoir été à midi auprès d'une femme en pleine forme de 102 ans, qui se lève, qui vous présente un rafraîchissement avec sa fille à ses côtés. Et quelques heures plus tard, vous vous retrouvez à Jeanne Garnier avec deux enfants de 21 et 24 ans, un mari de 65 ans auprès d'une épouse et d'une mère de 60 ans qui va mourir bientôt dans la foi, dans l'espérance, me demandant ce qu'elle doit faire maintenant pour se préparer à rencontrer le Christ. Oui, nous avons la plus belle des religions et nous, parce que nous avons la vraie religion. Nous avons un Dieu qui s'est fait homme et il n'y en a qu'un seul Dieu. Et s'il s'est fait homme, Jésus est le seul Dieu. Pendant des siècles, dans le passé et dans le présent, nous avons enseigné ce Dieu. Eh bien, pour le futur, nous devons l'enseigner et nous devons avoir des grâces d'oubli de nos péchés lorsque nous les avons regrettés du fond du cœur. Pour les offenses qui nous ont été faites, pour toutes ces blessures, pour toutes ces déceptions, pour toutes ces ingratitudes, pour toutes ces méchancetés, pour toutes ces querelles de famille, pour toutes ces choses inutiles que nous devrons regretter au purgatoire, dans le feu, pas seulement dans un regret spirituel, mais dans la fournaise de feu semblable à l'enfer qui est au purgatoire. Les âmes du purgatoire souffrent ce manque d'amour et ce manque de pardon, mais elles ont l'espérance, elles savent qu'elles sont sauvées. Les âmes damnées, elles, sont dans la haine, et ce feu est à la fois une punition et une distraction de leur haine. Nous devons tout abandonner en cette nuit de Noël. Nous devons nous purifier, nous devons aller vers cet enfant. Nous devons reconnaître la pauvreté de cet enfant. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons été rachetés par cet enfant. Nous devons reconnaître que nous devons à la Vierge Marie d'avoir accepté d'être la mère du Sauveur. Nous devons aimer Saint Joseph qui, lui, purifié et non pas immaculé dans sa conception, a été si fidèle à la grâce qu'il a été choisi pour être le père adoptif de l'enfant Jésus. Nous devons nous accrocher à tous ces saints et ces saintes qui, pendant des siècles, nous ont montré le chemin de la rédemption, de l'espérance. Oui, nous devons ce soir tout abandonner, oublier tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut nous inquiéter, et passer du temps à voir l'enfant Jésus, avoir une crèche chez nous, posséder une belle image de l'enfant Jésus, celle qu'a peint l'âme si pure de Fra Angelico. Oui, nous devons regarder la pureté de cet enfant, nous devons nous plonger dans la bonté de cette mère, nous devons nous recommander à Saint Joseph et aux saints anges. Tout cela pour être fidèle à l'appel d'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, un Dieu qui nous demande de mourir et de revivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.